Chères auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de La Libre Pensée, à laquelle les animateurs de Article 25 prêtent cette plage, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, moi-même, Michel Cadouche. Il y aura aussi une intervention de Henri Huil qui nous a transmise enregistrée. Depuis notre dernière émission, il y a eu l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis. Parmi des mesures qui quasiment toutes soulèvent le cœur, il y a des annonces inquiétantes, en particulier celles qui concernent le domaine militaire. Il exige que les pays de l'OTAN y consacrent 5% de leur PIB. Et moult commentateurs vont dans ce sens en appuyant pour une défense européenne en ce qui concerne notre continent. Tout pour préparer la guerre. Alors cela éclaire le discours que Macron a fait aux armées et le projet pour mobiliser la jeunesse en cas de conflit. Sujet qu'a abordé Henri. Par ailleurs, le Premier ministre, Bayrou, a annoncé qu'il souhaitait décomposer en deux le projet de loi sur la fin de vie. Que cherche-t-il à travers cette manœuvre qui sent bon le jésuitisme ? C'est ce que va développer Michel. Depuis l'adoption de la loi Debré et le serment de Vincennes, la libre-pensée combat pour l'abrogation de cette loi. Mais que sont réellement ces écoles privées financées par l'État ? Et par les collectivités, grâce à cette loi Debré. C'est à Claudette qu'il revient de faire le point. Commençons par la fin de vie, pour laquelle la libre disposition de nos corps est concernée au plus haut point. Michel, c'est à toi.
Oui, alors chers auditeurs, bonjour d'abord. Ensuite, c'est un sujet d'actualité, comme vous avez pu le constater, la fin de vie est une partie importante de la société, qui concerne en définitive la société. Alors, l'Assemblée nationale devait reprendre la discussion du projet de loi à partir du 27 janvier 2025. Cette discussion a été interrompue à la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Un vote sur le texte, normalement, était prévu le 18 juin. Alors, la nomination comme Premier ministre, le 11 décembre, d'un François Bayrou, qui n'a jamais caché son hostilité personnelle à l'idée d'ouvrir le droit à une aide à mourir, paraît plomber un peu plus l'avenir de ce texte devenu ces derniers mois un véritable serpent de mer. Deux textes, un seul débat. François Bayrou a confirmé lundi 27 janvier sur LCI sa décision de scinder en deux le projet de loi sur la fin de vie, dont l'examen à l'Assemblée nationale a été interrompu par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Le Premier ministre souhaite un texte sur les soins palliatifs, un devoir pour les Français et un autre sur l'aide à mourir, euthanasie ou suicide assisté, comme on peut le voir ou en Belgique ou en Suisse, qui relève selon lui de la conscience. Alors, suite à cette intervention, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, déclare « Le Premier ministre a présenté son opposition à une loi de liberté qui permettra à ceux qui le souhaitent de bénéficier d'une aide active à mourir par des arguments relevant du mensonge ou d'illumination mystique. Ainsi donc, François Bayrou est opposé à l'aide active à mourir car, selon lui, l'être humain ne meurt pas. De l'autre côté, il nous parlerait et nous influencerait encore. Par ailleurs, je continue à citer, il croit savoir qu'un enfant trisomique, pour faire plaisir à ses parents malades et mourants, demanderait à bénéficier d'une aide active à mourir, parce qu'il est très gentil. En outre, en Belgique, on euthanasierait des adolescents au motif qu'ils seraient mal dans leur peau. François Bayrou, je continue à citer, a confondu son rôle de Premier ministre de notre République laïque avec celui de prêcheur d'une congrégation religieuse. Il serait temps que le Premier ministre de la France retrouve la raison. Travaille les sujets de société.
Je sais.
excusez-moi, parce qu'il y a un peu des bruits sur la ligne, laisse de côté ses croyances religieuses et s'intéresse enfin à l'intérêt général des Français. Non, je continue à citer, Monsieur le Premier ministre, l'aide active à mourir, telle qu'elle est pratiquée dans 7 pays d'Europe, 11 États des États-Unis d'Amérique, 2 États d'Amérique du Sud, 6 États d'Australie, n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. En revanche, il continue à citer, confondre sa mission au service de la République française avec un militantisme religieux est une faute impardonnable au regard des 67 millions de Français. Il est temps que cessent ces propos dignes de brèves de comptoir et que le président de la République rappelle son Premier ministre à sa charge. Alors, ça, je finis de citer. Alors, cette proposition face à la fin de vie, il faut le signaler, est à mettre en parallèle avec le mot conclave qu'on a entendu dernièrement, tiré de la sémantique chrétienne concernant les rencontres pour discuter de la modification des retraites. Alors, c'est une petite précision quand même. Le mot conclave, d'ailleurs, depuis, est porté disparu dans leurs interventions accordées à la presse dominicale. Ni le Premier ministre François Bayrou, ni la ministre de Travail Catherine Vautrin n'emploient l'expression qui signifiait la réouverture de négociations entre partenaires sociaux sur les retraites. Elle a été enterrée la semaine dernière. Le gouvernement lui préfère les mots de conférence sociale ou encore de délégation paritaire permanente, car conclave était trop polémique face à des syndicalistes amusés ou agacés par le choix de ce mot tiré de la sémantique chrétienne. Alors nommé à, il faut savoir que qui était monsieur, il faut faire un petit rappel sur François Bayrou. Hein. François Bayrou est un héritier de la démocratie chrétienne. Nommé à Matignon, le centriste François Bayrou s'attelle à constituer un nouveau gouvernement dit de réconciliation. Une mission qui correspond à la vocation de la démocratie chrétienne dont ce catholique pratiquant est l'héritier. Un petit rappel, selon le journal La Vie du 17 décembre 2024, je cite, il y a au moins un léger avantage sur presque tous les hommes politiques, sa longévité en tant que chef de file centriste est plus exactement d'inspiration démocrate chrétienne. À 73 ans, ayant été ministre dans les années 1990 et ayant fondé plusieurs mouvements centristes dont le MoDem, il est devenu l'héritier le plus illustre d'une ligne idéologique qui, dans son ADN même, prône le compromis et le dialogue en naviguant entre la droite et la gauche et fuyant les extrêmes. Des principes qui ne peuvent qu'être utiles actuellement comme ils le furent lorsque le mouvement issu de la démocratie chrétienne connut ses derniers succès électoraux durant la 4e République, période marquée par l'instabilité gouvernementale. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas nous, la Libre-Pensée, qui le disons, c'est le journal La Vie. Enfin, pour revenir sur le problème de la fin de vie, il est temps que le droit des malades doit s'exprimer sa volonté dans des directives anticipées. Le droit de refus de traitement énoncé par la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, soit enfin reconnu et appliqué à ceux qui sont en fin de vie. Tant que ces malades puissent prendre eux-mêmes les décisions concernant leur état de santé et que les médecins puissent les accompagner dans leur choix sans décider de leur place, à leur place. Il est grand temps que les soignants puissent accompagner la vie du malade jusqu'au bout par des soins adaptés à ses choix et ne soient plus contraints de l'abandonner à des souffrances que seul ce malade peut évaluer ou de le plonger dans l'inconscience, le rendant de facto incapable d'exprimer sa volonté. L'objectif annoncé de la prochaine loi concernant la fin de vie est double. Renforcer les soins palliatifs et d'accompagnement et renforcer les droits des malades, y compris par l'ouverture du droit de l'aide à mourir. Les deux parties de la loi sont indispensables pour permettre de respecter la volonté de toutes les personnes malades jusqu'au bout et reconnaître leur dignité à dissigner pour elles-mêmes. C'est pourquoi soins palliatifs et aide à mourir doivent progresser ensemble dans le cadre contrôlé par la loi de la prise en charge de la fin de vie dans un parcours de soins. C'est ce qu'a recommandé la Convention citoyenne sur la fin de vie dans ses conclusions en avril 2023. Alors je vais finir par vous citer un point de vue de Anne Vivien, qui est la vice-présidente de l'ADMD, qui est anesthésiste réanimatrice retraitée. La solidarité, je cite, « la solidarité indispensable envers les personnes en fin de vie passe par l'empathie et non par des dogmes abstraits et des principes idéologiques. à tous ceux qui évoquent cette solidarité comme argument contre l'aide à mourir, je voudrais poser sans tabou cette simple question. Que souhaiteriez-vous pour vous-même dans cette situation ? Je continue à citer. Ma réponse personnelle à cette question est claire. Je souhaite avoir une véritable liberté de choisir entre soins palliatifs et aide à mourir jusqu'au bout de ma vie. Ici en France, sans droit de m'exiler pour mourir. Je le souhaite pour moi et je le souhaite pour tous ceux qui le veulent autant que moi, c'est-à-dire une écrasante majorité des Français. Oui, l'aide à mourir est un soin. Pour nous, médecins et soignants, il ne s'agit pas de donner la mort, c'est la maladie qui tue, car elle finit toujours par gagner quand elle est incurable. Il s'agit d'accompagner la personne qu'on ne peut plus guérir en respectant ses choix jusqu'à la fin sans que la loi n'impose rien, ni aux malades, ni aux soignants. Pour un malade, la possibilité d'une aide à mourir lui permet de supporter mieux et plus longtemps une maladie incurable. Pour un soignant, pouvoir accepter une demande d'aide à mourir, c'est aussi pouvoir aider à vivre une personne en souffrance en donnant de la sérénité à sa survie. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Alors bien sûr, ce que je viens de citer, là, concernant en définitive Anne Vivien, vous le retrouverez dans un document que, sur la fin de vie concernant tous les patients, hein, tout le personnel concerné par ce problème. C'est en définitive, vous le trouverez sur le site de la LP13, hein, www.lp13.org. C'est le droit de mourir dans la dignité. Les soignants prennent la parole. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, merci. Mais je te propose d'illustrer ton propos avec une chanson. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ?
Alors, la chanson que je vais vous proposer, c'est « À ma manière ». C'est une chanson de Dalida. C'est le titre d'une chanson faisant partie de l'album éponyme du deuxième album réorchestré par de Dalida, sorti en 1996. C'est une chanson composée par Diane Duster et adaptée par Pascal Sevran et Sylvain Lebel. Excusez-moi. La liberté est un thème largement évoqué par les artistes. Ceux-ci ont ce pouvoir de transmettre leurs convictions dans leurs chansons. Cette volonté de s'affranchir du monde se retrouve également dans la carrière de Dalida. Et une chanson nous vient particulièrement à l'esprit, « À ma manière ». En réécoutant les paroles, nous nous rendons compte de la puissance du message. La diva évoquant la liberté suprême, celle de partir de ce monde à sa manière. C'est un hymne à la liberté et à la solitude. En effet, Dalida évoque la solitude de la vie et sa profonde envie de liberté. Face au fracas du monde, la chanteuse prône la liberté de vivre sa vie à sa manière. La chanson nous montre que nous ne sommes jamais réellement libres. Nous passons notre existence sous le prisme des autres, évoluant de structure en structure. Au cours de sa chanson, on se rend compte que la chanteuse se bat constamment contre les malheurs de la vie. Les chagrins, les amours, la gloire, les échecs, tant de thèmes qui évoquent le combat permanent de la vie. Pourtant, Dalida nous montre que la liberté se trouve tout de même dans une profonde volonté d'essayer de vivre sa vie quand même. Alors, bien entendu, bien qu'il soit discutable, le symbole suprême de la liberté reste de choisir l'instant où l'on fait ses adieux au monde. Autrement dit, le jour de sa mort. C'est seulement là que, finalement, la chanteuse nous dit qu'elle sera vraiment libre, maître de sa vie et de sa mort à sa manière. Une partie d'une phrase, je vous dirais, de la chanson, c'est « Et le soir où je m'en irai, finalement, je le ferai à ma manière. J'aimerais, à tout dernier appel, faire mes adieux au soleil. » À ma manière. Voilà. Maintenant, nous allons vous mettre la chanson.
Des faux pas, des faux plis, chacun de nous porte sa vie à sa manière. Quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre, quelqu'un nous voit. À sa manière. Même sous la pluie des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Pour
tous les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine. Ceux qui m'ont choisi à leur manière. En laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus. Et le soir où je m'en irai, finalement je le ferai à ma manière. J'aimerais autour des rainières à faire, faire mes adieux au soleil.
Mais il y a une fin de vie que des dizaines de millions de jeunes n'ont pas choisie. Mourir à la guerre. Alors, que signifie ce qu'a dit Macron ? Nous vous proposons d'écouter ce que nous a transmis Henri à ce sujet.
Bonjour. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler à la fois d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est la mort du SNU, le Service National Universel, qui fut lancé en 2019 par Emmanuel Macron et relancé, entre guillemets, en 2024 par Gabriel Attal, qui avait annoncé sa généralisation à la rentrée 2026 à tous les jeunes de 15 à 17 ans. Le SNU n'est jamais passé au Parlement, ni dans ses principes, ni dans ses modalités. Ce dispositif, visant à encadrer militairement la jeunesse, a fait un bide monumental auprès des jeunes, justement, chaque année, moins nombreux que ce qui était annoncé, malgré des tentatives répétées visant à le rendre obligatoire. Il a été dénoncé et combattu par de nombreuses associations pacifistes et antimilitaristes, dont la Libre-Pensée. Le dernier clou sur le cercueil du SNU a été mis par la Cour des comptes, qui, dans un rapport publié le 13 septembre 2024, a dressé un tableau particulièrement sévère de ce dispositif, fort coûteux aux objectifs peu clairs, dit-elle. Et on pourrait ajouter qu'il a connu quelques dérapages inquiétants. La mauvaise nouvelle, c'est que Macron annonce un nouveau projet d'encadrement militaire de la jeunesse à l'occasion de ses vœux aux armées le 20 janvier 2025, à Cesson-Sévigné. Bon, voilà que ça le reprend. Il a insisté sur l'accumulation des menaces qui obligent la France à s'adapter et a indiqué qu'il veut proposer à notre jeunesse un engagement fort pour lui donner le choix de servir. Aujourd'hui, nous nous contentons d'un recensement d'une journée défense et citoyenneté. C'est trop peu, a-t-il dit. Il a rappelé que mobiliser les jeunes était l'ambition du SNU. Mais, depuis la dissolution et la déroute des macronistes aux élections, la mort du SNU a été réalisée. Emmanuel Macron, fidèle à sa méthode de la fuite en avant, annonce un nouveau projet pour mobiliser davantage de jeunes volontaires en renfort des armées. Il a demandé au gouvernement et à l'état-major des armées des propositions d'ici au mois de mai pour, dit-il, sans rétablir le service national obligatoire, permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs. Apprendre avec les armées. Nous devrons, a-t-il dit, mieux détecter les volontaires, les former et être capables de les mobiliser le jour venu. Sans préciser le jour venu de quoi ? En renfort des armées, en métropole ou ailleurs. Après l'armée de métier, c'est la réserve des professionnels qu'il nous faut à présent mobiliser en appui, en appoint, a-t-il dit. Pour constituer cette réserve, la journée de défense et de citoyenneté sera rénovée et redeviendra demain un moment de temps retrouvé avec les armées. Toujours, je cite Macron. Certains, sous-entendu des 800 000 jeunes qui chaque année passent par cette journée de défense, se signaleront et diront qu'ils répondront présents si la nation les appelle. Les appelle à quoi ? Les appelle à la guerre, forcément, nécessairement, au combat, à la bataille. La France, nous dit-on, voudrait 210 000 militaires d'actifs, c'est-à-dire de métier, et 80 000 réservistes en 2030. C'est donc dans ce vivier de la jeunesse que le gouvernement de Macron, et Macron lui-même, chercherait à prélever en quelque sorte ces 80 000 réservistes. En conclusion, signalons quand même que ce projet macronien s'inscrit dans un certain contexte, qui est le suivant. D'ici mai également, il a demandé au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale de lui faire des propositions pour s'adapter au péril de l'époque, a-t-il dit. Quand notre allié américain affirme que l'on doit dépenser plus pour la défense, au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN. Notons toutefois que la loi de programmation pour 2024-2030 prévoit déjà 413 milliards d'euros. Donc il faudrait dépenser plus que ces 413 milliards d'euros. Nous devons, Macron met les points sur les i, nous devons toutefois changer d'échelle dans nos montants consacrés à la défense. Changer d'échelle, ça veut dire multiplier par 2, 3, 5, 10, on ne sait pas encore, ces fameux 413 milliards d'euros. Cela dit clairement l'avenir qu'il, Macron, prévoit pour la jeunesse. Et que d'ailleurs, le gouvernement, les patrons du CAC 40, les marchands d'armes et de canons prévoient pour la jeunesse. Je pense que c'est une chanson de circonstance. Je vous propose donc d'écouter, à la suite, une chanson contre la guerre, contre toutes les guerres. Cette chanson s'appelle « La butte rouge ». C'est une chanson pacifiste de Monteus sur une musique de Georges Crière, écrite après la Première Guerre mondiale en 1923.
Alors, je m'excuse, on s'excuse, mais ce n'est pas cette chanson que l'on va passer. On a eu un petit bug, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons remplacer cette chanson par une autre chanson pacifiste qui s'appelle « Giroflé, girofla ». Alors, « Giroflé, girofla », C'est Rosa Hall qui a écrit cette chanson à 53 ans, juste avant de mourir, en 1935. Fuyant l'Allemagne se nazifiant, elle vivait à Paris et est enterrée au Père-Lachaise. Pour la musique de sa chanson, Rosa a utilisé celle d'une comptine enfantine éponyme, au demeurant stupide. Le musicien Henri Goubier, fils, ne fera qu'harmoniser cette magnifique giroflée-girofla. Car le paradoxe est là, sur un air doux, les paroles décrivent un futur atroce. L'époque est au désarroi. C'est pourquoi nous masquer l'horreur du 14-18 récent et avant la prochaine boucherie, l'État invente une soi-disant période de plaisir appelée année folle. Pour les bourgeois, certainement, mais tous les autres. Giroflée, girofla est une chanson contre les horreurs de la guerre, de toutes les guerres. La fin de la chanson nous interroge. Et tout ça, pour rien. La guerre a une fonction et une utilité pour le capitalisme. Il n'y a pas de fatalité, de coup du sort. Les guerres sont préparées, prévues, organisées, rentabilisées, et on le voit bien aujourd'hui avec toutes les intentions guerrières, que ce soit de Poutine, de Trump, de Netanyahou. Donc la chanson est tout à fait de circonstance.
Que tu as de beaux champs d'orge, giroflé, girofla, ton verger de fruits regorge, le bon temps c'est là. Entends-tu ronfler la forge, giroflé, girofla, canon les fauchera, le canon les fauchera. Que tu as la maison douce, giroflé, girofla, l'ombre y dort, la fleur y pousse, le bonheur y viendra. Vois la nuit qui devient rousse, giroflé, girofla, l'avion la brûlera, l'avion la brûlera. Que tu as de belles filles, giroflé, girofla, dans leurs yeux où le ciel brille, l'amour descendra. Sur la plaine on se fusille, girofle, girofla, soldat les violera, le soldat les violera. Que tes fils sont forts et tendres, girofle, girofla, c'est plaisir de les entendre, à qui chantera. Dans 8 jours on va me les prendre, girofle, girofla, corbeau les mangera, le corbeau les mangera. Tant qu'il y aura des militaires, soit ton fils, soit le mien, on ne verra par toute la terre jamais rien de bien. On tuera pour te faire taire, par derrière comme un chien, et tout ça pour rien, et tout ça pour rien.
Eh bien, nous allons passer à un sujet à laquelle la libre-pensée est extrêmement attachée. C'est ce qui concerne l'école, l'enseignement. Pour l'éducation de nos jeunes. Dans l'impertinent, nous avons publié les résultats. Alors l'impertinent, c'est la revue de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la libre-pensée. Nous avons publié les résultats de nos recherches sur le financement dans les Bouches-du-Rhône des écoles privées sous contrat. Claudette, que sont réellement ces écoles privées financées par l'État et les collectivités grâce à la loi Debré?
Oui, bonjour. Alors, durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons présenté nos travaux de recensement des fonds publics qui sont versés aux établissements d'enseignement privé dans notre département en vertu de la loi Debré. Nous avons fait plusieurs émissions sur la question. Au final, nous annonçons que le conseil régional plus le conseil départemental et seulement 3 des communes sur les 132 que compte le département nous permet d'arriver à un minimum de 55 millions d'euros versés par an à l'enseignement privé. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont on parle peu, qu'on occulte même lorsque l'on parle des financements publics versés aux établissements privés, celui du caractère propre de ces établissements et de leur mode de fonctionnement. Il est annoncé qu'on nous présente toujours ces établissements comme des établissements finalement ordinaires, mais bon, ce sont des établissements privés, quoi. Avant cela, je vais faire un petit rappel sur la loi Debré, un petit rappel, qui assure ce financement public. La loi Debré a été votée en décembre 1959, un peu plus d'un an après la naissance de la Ve République et la prise de pouvoir du général de Gaulle. Elle répondait à une demande de l'Église catholique avec laquelle elle a été élaborée, notamment dans l'objectif de la sauver, parce qu'elle était en mauvaise posture alors. Elle confie à une institution privée d'enseignement, tout en lui reconnaissant son caractère propre, confessionnel, une mission de service public et garantit son financement. Elle est en rupture fondamentale avec la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État, notamment son article 2. Je vous rappelle, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et met en œuvre la laïcité de l'État. Elle est aussi en rupture avec le principe énoncé dans la loi Goublet, loi qui faisait suite aux lois Ferry sur l'enseignement, du 30 octobre 1886, qui dictait, dans son article 2 aussi, que les établissements d'enseignement primaire de tous ordres peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par les particuliers et les associations. En d'autres termes, l'école de la République est financée sur fonds publics. Les autres écoles peuvent exister, mais elles sont financées avec des fonds particuliers, des particuliers. Une telle remise en cause s'était déjà produite sous le régime de Vichy, qui avait rétabli le droit aux congrégations d'enseigner et créé des caisses spéciales pour les écoles privées et avait effectivement installé des subventions pour ces écoles. Depuis 1959, en vertu de la loi Debré, tous les établissements d'enseignement privé peuvent, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public. Ils peuvent bénéficier pour leurs dépenses de fonctionnement de l'argent public dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Ils bénéficient d'autres privilèges et non des moindres. Ils ne sont pas soumis à la carte scolaire et à bon nombre de réformes qui tuent l'école publique et choisissent leurs élèves. Pour ce qui est de leur contrôle, il est pratiquement inexistant. 98% d'entre eux sont confessionnels et 96% sont catholiques. Les autres sont soit liés aux confessions juives, protestantes ou musulmanes, soit laïques, soit des établissements d'enseignement en langue régionale ou des établissements d'enseignement adaptés. S'y ajoute l'enseignement agricole, très majoritairement lui aussi catholique. Ces établissements particuliers, communautaristes, qui participent à la division des enfants du pays, reçoivent sur le budget de l'éducation nationale et des collectivités locales des milliards de subventions par an, estimées entre 13 et 15 milliards d'euros. 13 et 15 milliards d'euros, c'est une grosse fourchette, mais l'opacité de leur versement ne nous permet qu'une approximation. Officiellement, ils doivent respecter les exigences inscrites dans leur contrat, notamment enseigner les programmes nationaux de l'enseignement public et assurer la liberté de conscience des enfants. Qu'en est-il en réalité ? La loi Debré, dans son article 1, alinéa 4, dispose que l'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner, donc je vous rappelle caractère propre, on l'a présenté tout à l'heure, confessionnel, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Bon, ben, le caractère propre, on va regarder plus avant ce que c'est. Et est-ce que c'est compatible avec la liberté de conscience ? En ce qui concerne les établissements de l'Église catholique au profit de laquelle la loi a été créée, voici une première réponse extraite des statuts donc, qui régissent l'enseignement de l'Église catholique et qui présente 386 articles qui constituent la loi organique de l'enseignement catholique en France. Bien évidemment, je ne vais pas vous donner les 386 articles, on n'y serait pas encore demain. L'article 8 prévoit, aujourd'hui comme hier, l'Église catholique est engagée dans le service de l'éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu'elle a reçue du Christ, travailler à faire connaître la bonne nouvelle du salut. Dans son article 17, il est écrit « Le caractère ecclésial de l'école est inscrit au cœur même de son identité d'institution scolaire. Cette particularité pénètre et façonne chaque instant de son action éducative, partie fondamentale de son identité même et point focal de sa mission. » Dans l'article 21, le projet éducatif est le garant de l'unité de l'école, de la communauté qui la constitue et de sa mission. Les diverses disciplines ne présentent pas seulement des connaissances à acquérir, mais des valeurs à assimiler et des vérités à découvrir, donc les dogmes. Dans la perspective d'un tel projet éducatif chrétien, toutes les disciplines doivent collaborer. Donc les maths, la physique, la chimie, j'en passe. Article 23, l'Évangile est la référence constante des projets éducatifs. Donc quand on nous dit « oui, mais le projet éducatif est à part du projet pastoral », en fait, on nous enfume. Tout établissement catholique d'enseignement se dote d'un conseil d'établissement qui est consultatif. Il est présidé par le chef d'établissement, la tutelle de l'établissement, c'est-à-dire l'évêque ou la congrégation, qui y sont membres de droit. Article 130, l'autorité de tutelle participe à l'élaboration, donc on a vu l'évêque, la congrégation, l'autorité de tutelle participe à l'élaboration du projet éducatif de l'établissement, elle le valide et vérifie sa mise en œuvre. Elle accompagne sa relecture et son actualisation. On voit bien que, comme l'avait déclaré le cardinal archevêque André XXIII à la veille de l'adoption par l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France du statut de l'enseignement catholique en France, l'enseignement catholique est d'abord confessionnel. Traduit en bon français, la loi de l'Église est supérieure aux lois de la République. Cette organisation et ses orientations, on les retrouve d'ailleurs sur les différents sites des établissements catholiques que je vous invite à consulter sans modération. Vous y ferez une véritable idée de ce qu'elles sont. Par exemple, petit extrait, sur le site de l'école Saint-Vincent à Arles, la messe n'est pas obligatoire, mais dans le projet d'école, au milieu d'un amoncement de références à des valeurs et des prises en charge éducatives, on ne trouve pas un mot sur l'instruction et les programmes. Dans la page pastorale, on explique que la messe est donnée pour ceux qui le souhaitent. Mais le chapitre « Vie chrétienne » de cette page indique « Chaque semaine, dans chaque classe, les enfants reçoivent un enseignement dans leur classe sur la foi chrétienne donnée par un catéchiste bénévole de la paroisse. » Nous utilisons le catéchisme, donc dit ce site, « Viens et suis-moi », proposé par la communauté Notre-Dame de Vie, et nous apprenons des petits chants adaptés aux différentes classes d'âge. Le règlement intérieur qui doit être signé obligatoirement est très clair. Appartenir à l'école catholique Saint-Vincent de Paul implique l'adhésion de chaque famille au projet éducatif et son règlement intérieur. Sur le site du petit collège, collège et lycée de Provence marseillais, on trouve des choses aussi intéressantes. C'est l'établissement, vous savez, l'établissement jésuite qui est porteur du collège Loyola, qui est en train de se construire dans le quartier Arinque Euroméditerranée à Marseille et qui a été choisi par les pouvoirs publics pour remplacer un collège public. Voici ce que l'on trouve dans le règlement intérieur qui doit être obligatoirement signé par les parents. Au chapitre 3.5, la pastorale au collège est obligatoire. Partie intégrante de l'emploi du temps de votre enfant, elle répond aux mêmes règles. Il n'y a pas de dispense possible, car la pastorale a pour objectif une invitation à découvrir et approfondir son intériorité, à cheminer dans la spiritualité, à réfléchir avec les autres et grâce aux autres, aux questions de société, voire à creuser le désir de Dieu. Vous avez dit liberté de conscience ? Il est vraiment grand temps d'abroger la loi Debré et de mettre fin au financement public de ces lieux de ségrégation sociale et d'endoctrinement et de rétablir le droit à une instruction garantie du droit à l'instruction, libérée des dogmes, formant des citoyens éclairés et respectant la liberté de conscience des élèves. L'enseignement public laïque et gratuit est ouvert à tous. Pour ceux qui n'en veulent pas, la liberté de l'enseignement reste garantie, mais à leurs frais. C'est ce à quoi nous travaillons au sein du collectif pour l'école publique laïque initié par la FSU.
Voilà. Bien. As-tu une plage musicale appropriée à ton propos ?
Oui, en fait, c'est une chanson que nous avons déjà passée, mais que je trouve être particulièrement intéressante et appropriée en ces temps où l'État fait tant de misère aux enseignants de l'école publique et à leur fonction si essentielle. Il s'agit d'une chanson interprétée par Julien Clerc, qui a été coécrite par Digné Bardelivien. Julien Clerc disait de cette chanson que c'était des paroles qui parlent de ces gens à qui nous devons tout, parce que ce sont les gens qui nous font rentrer dans la vie. C'est une chanson sur les institutrices.
Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris que la liberté a un prix pour les chiens et les papillons, pour les hommes de toutes conditions, je pense à vous dès que j'écris. Mademoiselle qui m'avait appris à ne pas confondre les cris des marchands de révolution avec le peuple pour de bon, je me dois de vous dire merci. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Vous avez embelli ma vie.
Voilà, donc après cette chanson dont le titre est Mademoiselle, nous pouvons remercier Claudette, Michel, Henri. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Bouche du de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Je voudrais aussi vous présenter un petit peu le dernier numéro de la revue mensuelle nationale de la Libre-Pensée, qui s'appelle La Raison. Le dossier central porte sur quelque chose que nous avons un peu abordé aujourd'hui, c'est questions autour de la mort et de la souffrance. Vous trouverez aussi un certain nombre de notes de lecture, dont une qui me tient particulièrement à cœur, faite par notre ami Jean-Pierre Bacot, qu'il a intitulé « Le passé d'une illusion, les derniers jours du Parti socialiste ». Vous y trouverez un certain nombre d'itinéraires de personnages bien connus aujourd'hui. On peut citer Raphaël Antoven, Michel Onfray, Aurélien Bélanger, Caroline Fourest, Philippe Val. Voilà, donc ça, je pense que cela devrait fortement intéresser nos auditeurs. Sur ce, merci encore à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir au mois prochain, le mercredi 5 mars, de 14h à 15h, comme habituellement.
Oui, alors bien entendu, vous retrouverez le podcast de l'émission sur, sur Radio Galère, mais vous le trouverez également sur le site www.lp13, ainsi que tous les renseignements concernant ce que nous venons de dire, c'est-à-dire tout le document sur l'école publique et les fonds publics à l'école privée, ainsi que les problèmes sur l'armée, le SNU et tout ça. Au revoir.